Vous écoutez France Culture.
Suite et mi-chemin ce mercredi d'une semaine sur le stoïcisme dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Emmanuel Naya, Frédéric Ildefonse et Thomas Benatwil, c'est-à-dire après le sage Sénèque, l'esclave Épictète, l'empereur Marc Aurèle, Zénon de Citium, les trois Cléantes et l'hilarant Chrysippe, c'est de la différence entre stoïcisme et épicurisme que nous parlerons aujourd'hui en compagnie de Jean-François Balaudet qui enseigne à Nanterre et à qui l'on doit notamment, outre l'édition des lettres, maximes et sentences d'Épicure en livre de poche, un très utile, extrêmement utile vocabulaire d'Épicure paru chez Ellipse. Bonjour Jean-François Balaudet.
Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au Nouveau Chemin. On va parler de la différence entre stoïcisme et épicurisme en votre compagnie. Et pour cela, je voudrais qu'on parte de celui qui les unifie dans une critique commune, c'est-à-dire Emmanuel Kant, qui, dans la critique de la raison pratique, comme d'ailleurs dans les fondements de la métaphysique des mœurs, s'en prend aux deux. Il les met dans le même panier, dans le même sac d'une certaine manière, expliquant que stoïcisme et épicurisme ont en commun finalement de rechercher le bonheur qui, aux yeux de Kant, étant donné que le bonheur est toujours empiriquement déterminé par un individu particulier, est un idéal indigne de l'homme. Alors, est-ce qu'on peut souscrire à cette critique kantienne du stoïcisme et de l'épicurisme, et est-ce qu'on a le droit comme ça de les rassembler, de les mettre de cette façon dans le même sac?
Je dirais que la manière dont Kant traite et de l'épicurisme et du stoïcisme est une manière fort intéressante et bien qu'elle soit prise dans sa problématique propre, renvoie à un effectif débat de deux écoles ennemies nées à peu près au même moment et qui sur plusieurs siècles, vont s'affronter assez violemment, notamment sur la question de la fin pratique. Et en effet, Kant, en les rejetant dos à dos, utilise une sorte de symétrie inversée fort intéressante, où il explique qu'au fond, les deux, pour des raisons différentes, ont confondu en quelque sorte le souci de la moralité et le souci du bonheur, les épicuriens conditionnant la moralité à la recherche du bonheur, les stoïciens décrétant que la seule moralité suffisait à obtenir le bonheur.
En somme, dans un cas, il faut être heureux pour être moral, et dans l'autre, quand on se conduit de façon vertueuse, on est nécessairement heureux.
Nécessairement heureux, instantanément heureux. Et donc Kant a dénoncé les deux illusions. En fait, les stoïciens sont plus proches de sa perspective.
C'est évidemment ce que j'allais vous dire, parce que est-ce que dans l'idée que le simple, comment dire, l'impératif catégorique, entre guillemets, de se conduire moralement, l'impératif de se conduire moralement, qui vaudrait pour lui-même, qui serait en lui-même sa propre fin ou son propre bonheur, on est presque chez Kant, là.
Oui, c'est vrai. Au fond, il peut, pour ainsi dire, trouver chez les stoïciens le principe déterminant de la volonté qu'est la loi morale pour lui. Mais Kant soigneusement distingue le fait d'agir moralement et le fait d'être heureux, qui est un réquisite qui ferait du souverain bien un souverain bien accompli que nous pouvons souhaiter, mais qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir, ou hélas, mais qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir. Alors que les stoïciens sont dans l'illusion, en quelque sorte, de la toute-puissance et veulent tout. Ils pensent que le fait de se conduire moralement, c'est-à-dire vertueusement, suffit ipso facto à être heureux. Donc, en fait, ils sont assez proches de sa perspective et, en même temps, totalement à côté de ce que signifie véritablement être moral. Alors que les épicuriens se trompent davantage au départ, puisqu'il subordonne le fait de se conduire moralement à la poursuite du bonheur. Mais précisément, les épicuriens ont, aux yeux de Kant, le mérite d'introduire un écart, une distance entre le fait de se conduire moralement et le fait d'être heureux. Donc finalement, eux qui se trompent au départ davantage sont peut-être finalement un peu plus intéressants. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il me plaît de croire en, disons, zélateur des épicuriens que je suis.
Oui, vous êtes un grand défenseur des épicuriens, un promoteur de l'épicurisme, Jean-François Balaudet, et ce que n'était pas Emmanuel Kant. On l'a compris. Il y a aussi d'ailleurs le bonheur d'une lecture. Ça n'est pas évident quand on lit Emmanuel Kant, encore que il est peut-être des textes qui rendent heureux. Parfois, le simple fait de les comprendre peut rendre heureux. Et puis d'ailleurs, justement, dans quelle mesure est-ce que le bonheur chez les stoïciens comme chez les épicuriens relève d'un ordre qui est celui de la compréhension? En d'autres termes, dans quelle mesure est-ce que le bonheur ne dépend que de soi?
Il est bien vrai que les uns et les autres, je veux dire les épicuriens et les stoïciens, ont placé au cœur de la recherche du bonheur l'activité philosophique. C'est-à-dire qu'au fond, si on cherche, si on joue le jeu de la comparaison, et recherche des différences et des proximités entre leurs positions, oui, ce point évidemment les réunit. C'est seulement à la condition de faire ce travail sur soi, qui est en réalité un travail sur soi en tant qu'être rationnel, capable de développer des rationalités, des explications débouchant sur des vérités, que l'on peut espérer être heureux. Puisque, par exemple, pour les stoïciens, la vertu, ça n'est rien d'autre qu'une certaine manière de se tenir rationnellement face au monde. Au fond, ça n'est pas grand-chose d'autre que cela pour eux. Mais en même temps, c'est beaucoup, voire c'est tout, puisque la plupart des hommes, aux yeux des stoïciens, sont des insensés qui vivent sans raison, c'est-à-dire sans obéir aux règles de la raison. Par conséquent, ils n'agissent pas selon la vertu, et donc ils ne sont pas heureux. Les épicuriens ne raisonnent pas du tout de cette façon, mais aboutissent finalement à des conclusions assez proches, puisque pour eux, l'objectif, et c'est là le point qu'avait bien cerné Kant, au fond, dans sa confrontation des deux écoles, l'objectif de l'homme aux yeux des épicuriens, ça n'est pas de se conduire vertueusement, ce qui constituerait l'accomplissement de notre nature d'homme, mais l'objectif, c'est tout simplement de vivre dans le plaisir, compris comme sérénité. Au total, compris comme sérénité, puisque c'est la définition épicurienne du bonheur. Et pour atteindre cette vie de plaisir, cette vie dans la sérénité, il faut mettre en œuvre, effectivement, la raison. C'est la seule, et c'est l'unique moyen d'accéder à cette vie heureuse, parce que à partir d'un usage bien réglé de ma raison, en lien avec les sensations, et ce que m'indiquent les sensations, je vais pouvoir définir ce qu'il convient que je fasse, que je refuse, afin d'entretenir de manière continue, aussi continue que possible, l'état de plaisir que je recherche.
Ce qu'il convient, vous avez employé cette expression, ce qu'il convient, on traduit ça également par vivre conformément à la nature, en somme, ou bien même, si on veut moraliser un tout petit peu l'expression, faire ce qu'il faut, ou vivre comme il faut, c'est le fameux catéchone de Zénon, dont on parlait avec Frédéric Ildefonse, qui fait le fond du stoïcisme et d'une certaine façon également de l'épicurisme. Dans les deux cas, là encore, on va aller ensuite vers les différences, parce que les différences sont majeures. Mais dans les deux cas, là encore, entre stoïcisme et épicurisme, il y a cette ambition d'une vie conforme, non pas à ce qu'elle doit être, mais à ce qui est bon pour elle, à ce qu'il est bon qu'elle fasse.
Oui, c'est vrai. Et le fait est qu'avec des formules différentes, les deux écoles se règlent sur un horizon qui est, pour les deux, la nature. Les stoïciens, vous l'avez rappelé, considèrent que la fin est de vivre conformément à la nature, en accord avec la nature. Pour les épicuriens, le même raisonnement vaut, bien qu'ils ne donnent pas du tout le même contenu, la même détermination à ce qu'ils appellent nature. Pour eux aussi, la fin est de vivre selon la nature. Oui.
Jean-François Balodet, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, ce mercredi en direct du studio 167 de la Maison de Radio France. Et c'est, sans aucun rapport avec la moindre actualité éditoriale, de la différence entre stoïcisme et épicurisme que nous parlons aujourd'hui dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent au stoïcisme. Jean-François Balodet, vous avez dit que les épicuriens n'avaient pas la même conception de la nature que les stoïciens. On va aller avec vous maintenant dans ces différences. Et partons peut-être, on a vu que les deux doctrines étaient contemporaines, historiquement contemporaines. Hein. Zénon, le père du stoïcisme ou du zénonisme, est né 7 ans après Épicure. Et il a installé son école 5 ou 6 ans après qu'Épicure a fondé la sienne. Donc on est vraiment là dans des... ils sont tout à fait... contemporain. Alors, il y a aussi une différence entre épicurisme et stoïcisme qui est chez Épicure une sorte de mépris pour la culture traditionnelle, la dialectique, la technicisation artificielle du langage philosophique. Oui. Chez les stoïciens, il y a en revanche un intérêt infatigable pour la dialectique, en témoignent les œuvres de Chrysippe, en tout cas ce qu'il en reste, pour l'analyse, pour la pratique de tous les aspects du logos, qu'il soit discours, raison ou corps vivant de la nature tout entière. Mais venons-en à la physique. Avec vous, Jean-François Balodet, est-ce qu'on peut dire que la différence qu'il y a entre les épicuriens et les stoïciens, c'est finalement la différence qu'il y a entre un Démocrite, qui refuse toute finalité au sein de la nature, qui est discontinuiste, pour qui rien n'existe que la matière et le vide, et de l'autre côté, Héraclite, peut-être penseur d'une mobilité dont les stoïciens sauraient s'inspirer pour envisager la possibilité d'une incorporation pneumatique au monde, une façon d'adhérer à l'existence, d'en épouser la mobilité, la fluidité.
Je pense que ce sont des filiations tout à fait correctes que vous envisagez. La filiation Démocrite-Épicure semble assez objective dans la mesure où les deux physiques sont souvent catalogués comme des atomismes à juste titre, puisque pour Démocrite comme pour Épicure, les principes de toute chose qui font le fond de la nature, ce sont les atomes et le vide. Bon, ça, c'est un premier point. Concernant Héraclite, la filiation est revendiquée par les stoïciens eux-mêmes, hein, qui vont, au fond, se réclamer d'Héraclite. Maintenant, finalement, on peut ajouter un certain nombre de choses qui vont conduire à moduler ces filiations et introduire quelques éléments de différenciation. D'abord, il y a une chose frappante, si je reviens une seconde à Épicure, c'est qu'Épicure a récusé toute ascendance philosophique. Il a récusé l'idée qu'il aurait repris les éléments de la physique démocritéenne.
Alors qu'ils sont quand même manifestement à l'œuvre dans sa façon de faire.
Disons qu'en réalité, il avait connaissance des principes de la physique de Démocrite. Mais il ne s'inscrit pas en continuateur. En quelque sorte, il refonde la physique atomiste. Et ce qui donne à Épicure quelques raisons de revendiquer cette originalité, c'est que Démocrite, finalement, avait déduit, pour le dire vite, spéculativement, les atomes et le vide. Au fond, les atomes et le vide, c'est l'être et le non-être. Il avait, au fond, c'est dans une problématique purement ontologique, en réponse au parménidisme, que Démocrite s'efforce de démontrer que l'on ne peut pas fonder l'être si on ne lui oppose pas un autre principe de force équivalente, en quelque sorte, qui est le non-être.
Alors, rappelons en peu de mots, disons-le autrement, Parménide, donc le père du parménidisme ou de l'éléatisme, Parménide, c'est celui qui dit ce qui existe existe, ce qui n'existe pas n'existe pas. En somme, il y a ce qui existe, il y a ce qui n'existe pas, et par définition, les deux ne se mélangent pas, puisque, comme son nom l'indique, ce qui n'existe pas n'existe pas. Par conséquent, il n'a pas vocation à se trouver au sein de ce qui existe. Et à partir de Parménide, toute une tradition qui le tire dans le sens de la métaphysique, ce qu'on peut discuter, mais ça c'est une autre affaire, à partir de Parménide, toute une tradition, que ce soit effectivement, que ce soit Démocrite, ou que ce soit, que ce soit Platon, toute une tradition essaiera d'incorporer à l'être du non-être. Platon dira notamment que le repos est le non-être du mouvement, qu'il y a donc du non-être au sein de l'être, ce que Parménide ne permettait pas de penser. Et de cet entrechoc de l'être et du non-être est née, pour le coup, la physique d'Épicure.
Oui, Mais alors voilà, la différence et ce qui fait par conséquent qu'Épicure prétend à l'originalité et récuse la filiation avec Démocrite, c'est qu'il va prétendre fonder les principes des atomes et du vide sur une inférence tirée de l'observation sensible.
Une déduction, hein ? Il a déduit tout ça de ce qu'il voyait.
Voilà, et c'est ce qui, en principe, et si on épouse la logique interne à l'épicurisme, c'est ce qui donne toute sa force au principe des atomes et du vide, une force que n'avaient pas les principes purement spéculativement déduits de Démocrite. Pourquoi, en deux mots, les atomes et le vide sont-ils appuyés sur ce que l'expérience nous enseigne ? C'est un raisonnement très simple, mais tellement simple qu'il est très fort. Hein, c'est que... nous observons qu'il y a des corps et des mouvements de corps. Or, pour qu'il y ait des corps, il faut qu'il y ait des éléments constitutifs de ces corps, que, je le dis en raccourci, on appellera atomes, qui signifie insécable en grec.
Non divisible.
Non divisible, donc des corps insécables, premiers, constitutifs. Et s'il y a du mouvement, c'est parce qu'il n'y a pas que des corps, mais des... disons, des intervalles entre les corps, des espaces libres, c'est-à-dire du vide. Voilà. Et c'est ainsi que, pour le dire très vite, les principes des atomes, que sont les atomes et le vide, à partir desquels Épicure va construire une physique assez monumentale, extrêmement cohérente et très audacieuse, se constitue.
Mais en même temps, cette physique d'Épicure... dont démocritéenne, enfin, cette physique-là est d'une sécheresse inouïe à côté de la vision continuiste, vitaliste, organique, mélangée, pneumatique, hein, au sens où c'est un souffle qui nous traverse et nous constitue, qui est la physique des stoïciens. Il y a quelque chose de... On a l'impression, quand on lit les stoïciens, que le souffle de l'esprit est passé par là, alors qu'on est chez Épicure dans un univers où, finalement, telles des auto-tamponneuses, hein, la matière naît de la rencontre aléatoire des particules. C'est finalement presque la différence qu'il y aurait entre une série d'instantanés et un mouvement continu.
Oui, effectivement, le plaidoyer est fort.
Je le dis pour vous fâcher.
Bien
hein,
sûr, non, mais même si je défends mes épicuriens, je me garderais bien de me prétendre épicurien ou quelque chose de la sorte. Mais alors, voyons, effectivement, tentons un plaidoyer inverse. Les épicuriens, face aux spéculations stoïciennes, mais face aussi aux spéculations physiques en matière de physique des platoniciens et des aristotéliciens, répondent que lorsqu'on invoque des principes supérieurs, des dieux vivants ou des forces agissantes vivantes au sein du monde, eh bien, on crée des fictions, des belles fictions. Mais seulement des fictions. Et aux yeux des épicuriens, ces fictions peut-être rassurent un temps ceux qui y adhèrent, mais dans le fond, n'évacuent pas les troubles qui subsistent au fond d'eux-mêmes. Pour quelle raison ? Parce que, acceptant de poser l'existence de ces principes supérieurs, de ces dieux plus ou moins bienveillants, plus ou moins dans le monde, dans le cas des stoïciens, totalement dans le monde, on ne s'affranchit pas d'une peur, j'allais dire ancestrale, d'une peur terrible, d'une peur complètement enfouie, mais bien là, qui est la peur de ce qui me dépasse, de ce qui me transcende et qui pourrait ne pas vouloir mon bien. Et c'est finalement...
C'est le monde dont parle Albert Camus, hein, le monde qui m'anéantit, qui me nie sans colère, hein.
C'est ça, et effectivement, le but de la physique épicurienne, s'il faut le présenter en ces termes, et c'est au fond assez conforme, je pense, à l'esprit de l'épicurisme, le but de la physique épicurienne est de parvenir, grâce à cette sèche physique, mais rigoureuse, de parvenir à nous affranchir des troubles qui nous traversent, donc à la fois la peur des dieux, mais aussi la peur de la mort, c'est-à-dire la peur de tout ce qui me menace et qui me promet à l'anéantissement.
Il n'y a rien à redouter dans le fait de vivre, pour qui a authentiquement compris qu'il n'y a rien à redouter dans le fait de ne pas vivre. Si bien qu'il est sot, celui qui dit craindre la mort, non pas parce qu'elle l'affligera lorsqu'elle sera là, mais parce qu'elle l'afflige à l'idée qu'elle sera là. Car la mort, qui, lorsqu'elle est là, ne nous cause pas d'embarras, provoque une affliction vide lorsqu'on l'attend. Le plus terrifiant des maux, la mort, n'a donc aucun rapport avec nous, puisque précisément, tant que nous sommes, la mort n'est pas là, et une fois que la mort est là, alors nous ne sommes plus. Ainsi, elle n'a de rapport ni avec les vivants ni avec les morts, puisque pour les uns, elle n'est pas, tandis que les autres, eux, ne sont plus. Jean-François Balaudet, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'est à Jean-François Balaudet dans le cadre d'une semaine sur le stoïcisme. C'est à Jean-François Balaudet qu'on doit notamment l'édition en livre de poche des Lettres, Maximes et Sentences d'Épicure, dont je viens de lire un petit paragraphe extrait de la fameuse lettre à Ménécée, dans lequel Épicure prétend résoudre la crainte de la mort, qui est quand même l'ennemi numéro un, l'adversaire numéro un, sinon la raison d'être évidemment, de l'exercice même de la philosophie. Jean-François Balaudet, les stoïciens et les épicuriens ont chacun leur méthode. L'intention reste la même. Il s'agit dans les deux cas de survivre à l'idée qu'un jour on va mourir.
Oui. Oui, certainement, on peut le dire de cette façon. Du reste, n'étant pas spécialiste à 100% du corpus stoïcien, ce que je vais dire, je le dis avec une certaine prudence. Mais
En quoi vous êtes épicurien et stoïcien à la fois ? Ils vantaient tous les deux la prudence. Allez-y.
Oui, c'est vrai. Sur la question de la survie individuelle, les stoïciens ont beaucoup flotté. Et il n'est pas certain qu'ils aient tous, en tout cas, adhéré à l'idée d'une survie individuelle. Et au fond, la logique même de leur système physique conduirait à défendre l'idée inverse. Mais peu importe, parce que vous avez raison, dans les deux cas, il s'agit de survivre à l'idée de sa propre disparition. Et dans le cas des stoïciens, effectivement, ça se fait dans une espèce de communion de l'être rationnel que je suis avec le logos universel. Et dans le cas des
en somme, cette incorporation de l'individu par l'ensemble dont il doit apprendre qu'il est partie prenante.
Absolument, c'est-à-dire que pour les stoïciens, le tout étant un tout harmonieux
et vivant.
Vivant, parfaitement bien agencé dans toutes ses parties et dans la continuité de ses états. L'objectif du sage, c'est au fond de réaliser en lui-même l'équivalent de cette harmonie cosmique. Et dès lors, ça paraît très simple au fond quand on le dit comme ça, dès lors l'état effectivement atteint par celui qui est capable de s'harmoniser en lui-même est un état de perfection indépassable.
Ou d'ataraxie.
Oui. Alors, les stoïciens préfèrent parler d'apathie.
Alors voilà, justement, venons-en là, hein, l'apathie ou l'ataraxie. Ce qui est fascinant quand même dans les deux cas, hein, c'est que d'une physique naît une éthique, un comportement. On déduit le comportement d'une vision du monde. Donc on a vu comment l'apathie, l'aptitude finalement à ne pas souffrir, surgissait de la conception d'un monde dans lequel il s'agirait de s'incorporer ou d'assumer finalement le fait qu'il nous traverse et qu'il nous constitue. Quelle forme d'ataraxie, quelle forme d'absence de douleur peut surgir de la sèche physique en forme d'auto-tamponneuse des épicuriens, Jean-François Balaudet ?
Oui. Oui, eh bien voilà.
Je garde la métaphore des auto-tamponneuses. On m'a appris la physique épicurienne avec cette image-là et j'y adhère.
Très
allez-y.
Bien, entendu. Eh bien voilà, finalement, l'effet de la physique épicurienne va être tout l'inverse de ce... De l'aspect que présente pour nous la physique atomiste d'Épicure. En effet, c'est le fait même de comprendre intimement ce que vous avez lu, hein, l'argument si controversé d'Épicure, hein, c'est le fait de comprendre que physiquement la mort n'a aucun rapport avec nous, qui doit conduire à la plus parfaite sérénité. Au fond, c'est le fait d'assumer le fait que nous sommes mortels et radicalement mortels, sans aucun espoir de survie individuelle, quelle qu'elle soit, qui doit finalement produire en nous la plus parfaite sérénité.
Mais pardonnez-moi, mais est-ce que ce n'est pas rigoureusement la même chose que les stoïciens ? Parce que dans un cas, il s'agit d'oublier que quand on meurt... Enfin, disons, mettons que les stoïciens disent « tu meurs, mais la vie ne s'arrête pas à ta vie », Chez les épicuriens, c'est « tu meurs, mais ton cadavre n'est pas concerné par les souffrances que tu lui attribues ».
Oui, c'est vrai. Mais disons que dans un cas, le sens de son existence, je parle des stoïciens, le sens de l'existence se dépasse. Hein, dans finalement la compréhension du logos universel. Dans le cas des épicuriens, le sens de l'existence est construit par moi-même et seulement par moi-même, c'est-à-dire sans jonction avec une quelconque transcendance, puisqu'il n'y a pas de Dieu agissant providentiellement, il n'y a que des dieux qui n'ont qu'à faire de nos propres affaires humaines.
Oui, rappelons ceci, hein, que finalement les dieux épicuriens sont paradoxalement assez transcendants. Enfin, ils sont au-delà en tout cas des affaires humaines, mais ils ne s'en occupent pas. De sorte qu'il pourrait aussi bien ne pas exister que ça ne changerait rien. Alors que la conception stoïcienne de la divinité est plus subtile et peut-être même plus contradictoire, dans la mesure où chez les stoïciens, il y a à la fois un monde qui n'est que lui-même, et en même temps au principe de ce monde, une volonté qui le transcende dans la mesure où elle est bonne.
Oui, c'est vrai. Il y a donc une sorte de double face de la nature. Il y a un côté un principe actif, un principe passif, et à chaque fois une sorte de ce monisme se tend à se dédoubler sans se dédoubler. Et c'est ce qui confère effectivement au monde sa perfection, son sens et son unité. Oui, en effet, on pourrait aller un peu dans cette direction. Le fait est que, j'en reviens à un point que j'avais évoqué tout à l'heure, le fait est que les stoïciens ont en quelque sorte besoin, hein, pour construire l'ensemble de leur représentation du monde, ils ont besoin de postuler cet ordre, et s'étant donné cet ordre au préalable, ils vont le chercher partout. Et ça sera un des grands motifs de la polémique des épicuriens à l'encontre des stoïciens. C'est qu'au fond, ce sont des croyants, hein, qui vont chercher des preuves de leur croyance ici et là. Évidemment, quand on cherche des preuves de ce dont on est déjà convaincu, on les trouve. Alors que les épicuriens, au fond, à partir de cette stricte réduction de toute chose à des assemblages atomiques, vont finalement chercher à inventer, hein, un sens qui n'est donné par personne d'autre que les hommes eux-mêmes, et surtout pas les dieux.
Et oui, la colère des dieux dans les nouveaux chemins de la connaissance et les requiems de Mozart. Pour ponctuer cette conversation à votre compagnie, Jean-François Balaudet. Justement, tiens, on parle des dieux chez les stoïciens ou des dieux chez les épicuriens. Dans un cas, les dieux existent, hein, chez les épicuriens, mais finalement, ils n'existeraient pas, ça changerait rien. Dans l'autre, les dieux n'existent pas, mais en somme, ils sont à l'œuvre dans le monde, puisque le monde est tout entier l'effet d'une volonté bienveillante. Est-ce qu'on peut dire quand même que stoïciens et épicuriens ont en commun, et peut-être cet avantage sur Kant, qui les critique tellement, de ne jamais envisager la possibilité d'un dieu à forme humaine, finalement, d'un dieu dont les colères pourraient se manifester par les déferlements de la nature, les colères de la nature. En somme, Kant, lui, est davantage l'héritier d'une tradition qui, situant l'homme au cœur de la création, aurait tendance à prendre ses désirs pour des réalités et à interpréter le monde à l'aune de ses propres critères, même si Kant revient sur cette tradition. Chez les épicuriens, chez les stoïciens, l'idée même, par exemple, que les dieux puissent être en colère n'a pas de sens.
Oui, ou alors, dans le cas des stoïciens, on peut toujours rendre raison des mythes qui relatent des colères de Dieu, des passions de Dieu, en les interprétant allégoriquement, ce qui a été, au fond, une de leurs grandes spécialités, hein, puisqu'ils se sont employés à décrypter, en quelque sorte, les récits de la tradition, de la tradition poétique, et à leur donner un sens consonant avec leur propre représentation du monde. Mais en réalité, bien entendu, hein, si on parle en vérité, en s'appuyant sur les fondamentaux de la physique, il n'y a rien de tels que la colère des dieux, du point de vue stoïcien. C'est-à-dire que les déchaînements de la nature, parce qu'il y en a, les catastrophes, les cataclysmes, bien sûr, pourraient être interprétés comme des mouvements de l'humeur, de la colère des dieux, mais en réalité ne peuvent pas être sondés de cette manière-là, doivent plutôt être compris comme des événements, seulement des événements, qui ont leur nécessité.
Parce qu'il faudrait, pour les interpréter comme l'expression de la colère divine, situer l'homme au centre de la création. Or, oui. Le mouvement, le travail des stoïciens et des épicuriens, c'est, malgré leurs différences, hein, ils ont quand même ceci en commun, c'est de, finalement, doter à l'homme tout privilège au sein même de la création. Finalement, rien ne distingue l'homme des autres parties du vivant ou bien de cette physique sèche dont parlent les épicuriens.
Alors, pas tout à fait. Dans le cas des stoïciens, ce qui est assez intéressant et problématique, à mon avis, du côté du fait des stoïciens, il y a une affirmation qui est celle d'une communauté existant entre l'ensemble des êtres rationnels qui sont dans le monde. Et ces êtres rationnels sont les hommes et les dieux. Donc, il y a une communauté des hommes et des dieux, disent-ils. Et c'est en fonction de cette communauté que nous devons raisonner, en particulier pour penser le rapport de l'homme au cosmos, et en particulier la manière dont l'homme doit ou devrait constituer sa communauté humaine. C'est-à-dire donc il y a l'idée finalement d'une communauté d'êtres raisonnables que l'on devrait essayer de construire à partir de cet horizon de référence qui est celui de la communauté des hommes et des dieux. Et la frontière passe très nettement, il y en a une, entre les hommes et les dieux d'un côté qui sont des êtres de raison, et puis les allogas, les êtres irrationnels qui sont les animaux, les plantes et ainsi de suite. Si bien que les conséquences éthiques sont immédiates du point de vue des stoïciens, nous n'avons de devoir de justice qu'envers les hommes, évidemment les dieux, sous la forme de la piété.
Et puis surtout, nous avons des devoirs de justice, si j'ose dire.
Nous avons des devoirs de justice.
C'est quand même la première différence, elle est là. Il y a presque un décalogue à ce moment-là.
Oui, nous avons des devoirs de justice.
Il y a plus une morale stoïcienne qu'une morale épicurienne.
Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est assez intéressant. Je termine juste.
Allez-y,
sur ce point.
Pardon. Oui.
Non, mais je vais répondre à ce point qui est crucial, évidemment, lorsqu'on s'intéresse aux questions d'éthique comparées entre ces deux écoles, et en particulier la question de la justice. Mais les devoirs de justice ne sont donc entre être de raison et certainement pas entre être de raison et être sans raison, les allogas. Par conséquent, nous n'avons aucune espèce de devoir envers les animaux. Il n'existe en vérité, du point de vue providentialiste qui est celui des stoïciens, que pour servir les besoins de l'homme. Donc ça, c'est le cadre. Alors ça a déchaîné dans l'Antiquité les passions polémiques.
C'est fou parce que le stoïcisme est un humanisme.
Oui, radical. Oui, radical. Et effectivement, ça passe par la récusation d'un lien véritable, essentiel, entre les hommes et les animaux. Alors les épicuriens de...
Alors que les épicuriens, eux, sont dans un ordre... C'est bizarre parce qu'on dit que la physique épicurienne est discontinuiste, alors que les stoïciens, eux, sont dans une forme de continuisme. Or, le continuisme stoïcien débouche sur une séparation radicale entre le règne humain et le règne animal, alors que le discontinuisme épicurien aboutit à ne faire aucune différence entre l'homme et l'animal.
Oui, parce que au fond, ils ne sont pas essentialistes et ils ne considèrent pas... C'est vraiment une des grandes différences une différence majeure entre l'épicurisme et les autres écoles philosophiques antique, ils ne considèrent pas que les espèces sont figées, pour la simple raison que, à leurs yeux, dans le tout infini, existe une infinité de mondes, et dans cette infinité de mondes, des vivants apparaissent, cela devient éternellement. Ce qui veut dire que les mondes qui existent ont eu un acte de naissance, auront un acte de décès, et ainsi de suite. Et donc, a fortiori, s'agissant des espèces de vivants. Ce qui fait que, au fond, rien n'est jamais fixé, mais tout est en devenir. Par conséquent, il n'y aurait aucune raison, absolument aucune raison, de faire passer une limite entre des vivants définis par quel élément unifiant, faire passer une limite entre les vivants et et l'homme. En réalité, par exemple, sur la question de la justice, alors c'est un point très intéressant, les stoïciens disent « nous n'avons pas de devoir de justice envers les animaux parce qu'ils sont aloga, ils n'ont pas de raison, point ». Évidemment, on voit bien que c'est suffisant pour eux. En revanche, les épicuriens disent « nous n'avons pas de devoir de justice envers les animaux parce qu'ils ne sont pas capables de pactiser ». Parce que de fait, ils n'arrivent pas à user du logos, et donc nous ne pouvons pas nous entendre avec eux sur le fait de ne pas nous nuire mutuellement. Mais si c'était le cas, nous aurions des pactes avec eux, et nous serions amenés, par conséquent, à nous conduire de telle et telle manière définie envers les animaux. Donc la différence, au bout du compte, on pourrait dire, c'est la même chose, c'est-à-dire les épicuriens s'autorisent à consommer de la viande, à tuer les animaux, à les élever pour les consommer, mais ça n'est pas fondé sur une différence radicale qui est la possession ou non du logos.
Et en même temps, c'est étonnant parce que les stoïciens sont forment une communauté de penseurs qui invitent constamment les lecteurs à s'investir dans les affaires publiques. Il y a une politique du stoïcisme en permanence, alors que les épicuriens sont plutôt du côté de vraiment vogue la galère, ça ne me concerne pas, ce que Tocqueville appellerait le repli sur soi, hein, où il faisait la matrice des despotismes sournois qui nous guettent en ces temps démocratiques et de revendications de droits. Il y a une vraie différence entre les stoïciens et les épicuriens. Les stoïciens sont des hommes politiques, les épicuriens s'en fichent. Ça n'est pas leur affaire, ça n'est pas leur problème. Or, pourtant, c'est un argument politique qui justifie chez les épicuriens qu'on fasse du mal aux animaux.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est intéressant, tout à fait juste. Et comment dire, Épicure lui-même ne s'est pas désintéressé de la politique ou des questions, disons, touchant la politique, l'organisation de la cité, les règles de droit. Il ne s'est pas désintéressé de cela et, au fond, en a donné une analyse qui permet de situer exactement, à ses yeux, le niveau de valeur, hein, dans une échelle morale, le niveau de valeur de ce qu'on peut appeler globalement la politique. Au fond, les institutions politiques, les règles de droit que l'on se donne, permettent de garantir aux hommes la sécurité. La sécurité avant tout matérielle, mais pas la sécurité spirituelle, pour le dire vite. Et c'est ce qui fait que il peut à la fois s'intéresser à la politique et en même temps relativiser l'importance de la politique. C'est-à-dire qu'à ses yeux, et c'est la différence avec les stoïciens, la différence avec Aristote et évidemment avec Platon, à ses yeux, la politique n'est pas un enjeu moral. Au fond. La politique remplit son rôle, remplit sa fonction, nous donne des éléments permettant de garantir notre sécurité, mais ne nous assure en aucun cas la possibilité d'atteindre le bonheur.
En aucun cas.
En aucun cas, non.
Néanmoins, puisqu'on est... Revenons-en à l'échelle individuelle, Jean-François Balaudet. S'il ne s'agit pas d'atteindre le bonheur par le biais de la politique, donc s'il n'y a pas d'idée d'un bonheur collectif, il y a quand même en commun... Chez les stoïciens et les épicuriens, ici, je me servirai de Sénèque, après tout, dont on a parlé lundi dernier avec Emmanuel Naïa. Dans son traité de la brièveté de la vie, Sénèque dit « Nous n'avons pas reçu une vie brève, mais nous la sommes faite. Et nous n'en avons pas été dépourvus, mais prodigues. » Chez Épicure, il y a l'idée que la richesse est fonction du besoin. Un homme riche, que sa richesse rend ivre au point d'en vouloir davantage, est qualitativement moins riche qu'un homme démuni, mais satisfait du maigre repas, de la maigre pitance qu'il a sur sa table. » Il y a, de ce point de vue, hein, on en revient à l'échelle de l'individu cette fois-ci, il y a de ce point de vue peut-être de très fortes affinités entre stoïcisme et épicurisme, c'est-à-dire dans le rapport à l'existence. Finalement, l'un comme l'autre nous apprennent à envisager l'existence sur un mode qui n'est pas celui de la quantité, mais celui de la qualité. Que ce qui importe, ça n'est pas tellement nos représentations, mais le rapport que nous entretenons à nos représentations, ni nos opinions, mais le rapport que nous entretenons à nos opinions ou à nos affects.
Oui, c'est tout à fait juste. Et alors, comment dire, il faudrait peut-être introduire une filiation supplémentaire pour parler un peu du stoïcisme et de la position stoïcienne que vous venez d'évoquer. C'est la filiation cynique. Hein, c'est-à-dire qu'au fond,
les fils de chien.
Oui, c'est ça.
Rappelons que le cynisme vient du mot qui signifie le chien.
Le chien, et Diogène de Sinope était surnommé le chien.
Oui, ses détracteurs l'appellent le roquet, oui.
C'est ça, oui. Mais ça ne le dérangeait pas et il avait tout à fait assumé finalement tout à fait assumé ce surnom. L'ascendance cynique du stoïcisme est importante ici parce que...
C'est quand même bizarre, pardonnez-moi, hein, j'y pense en vous écoutant là, mais les stoïciens font une différence entre l'homme et l'animal, mais ce sont des fils de chiens.
Oui,
c'est allez-y, juste. Fin de la parenthèse.
C'est juste.
allez-y.
Oui. Cet élément de filiation cynico-stoïcien, il tient dans ce culte de la vertu dont nous avions parlé pour commencer. Et ce culte de la vertu conduit à un credo commun aux cyniques et aux stoïciens, qui est la catégorie des indifférents. Qui permet finalement de rejeter comme n'étant pas pertinent en vue de l'obtention de la fin majeure tout ce qui n'est pas de l'ordre de la vertu. Et donc pour atteindre la vertu, en réalité, il faut s'exercer, s'endurcir, devenir un ascète. Hein, j'allais dire un athlète, c'est une image qu'ils emploient, un athlète de la vertu. Ça passe donc effectivement par l'épreuve, la restriction, le travail sur soi, qui confine au sens moderne de l'ascétisme. Dans le cas des épicuriens, finalement, évidemment, le raisonnement est différent avec... une conséquence à peu près semblable. Dans le cas des épicuriens, le but n'est pas de s'endurcir pour acquérir la vertu. On a compris que la vertu, au fond, n'était qu'un moyen, Kant avait raison, n'était qu'un moyen d'atteindre le bonheur. Donc l'objectif, la raison de la restriction, ce n'est pas le fait de s'endurcir en vue de la vertu, mais la raison de la restriction, c'est que en s'habituant à se contenter de peu, de pain et d'eau, on apprend à jouir plus intensément de ce qui nous est donné, quelle que soit la nature de ce qui nous est donné.
Donc, ça, Sénèque ne dit pas autre chose. Alors, Sénèque roulait sur l'or et il se défendait d'en dépendre. Ouais. Mais lui-même ne dit pas autre chose. Hein. Notre existence offre une vaste étendue à celui qui sait bien en disposer. C'est celui qui... Savoir bien disposer de ce qu'on a sous la main, c'est exactement ce que vous dites, Jean-François Balaudet.
C'est vrai. Alors, dans le cas de Sénèque, ce qui est assez intéressant, qui a souvent frappé les interprètes et qui suscite encore leur intérêt, c'est le fait que Sénèque a une certaine tendance forte intéressante à un syncrétisme entre les deux écoles. Il est stoïcien, bien entendu, mais il intègre énormément de références à Épicure. Et au fond, c'est parce qu'il reconnaît en Épicure un maître de sagesse, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être s'est trompé sur les dogmes, mais qui, en revanche, ne s'est pas trompé sur l'objectif qui était à poursuivre. Et par conséquent, là, si on s'appuie sur Sénèque, on aurait effectivement de nombreux textes montrant des convergences de fait objectives entre l'éthique stoïcienne et l'éthique épicurienne. Mais dans le cas de... compléter l'argument concernant la restriction épicurienne, finalement, le résultat paradoxal de cette restriction, c'est qu'en en s'habituant à se contenter de peu, on cultive son art de jouir bien plus que si l'on se laissait aller ce qu'il appelle aux banquets ininterrompus, aux fêtes et aux dérives habituelles dont sont familiers les débauchés. Donc c'est en se contraignant, c'est en se restreignant que l'on peut jouir davantage. Et par conséquent, ça signifie que, de temps en temps, évidemment, on peut s'offrir bonne chère et toutes sortes de plaisirs. Pourvu qu'aucune accoutumance ne s'en suive, nous serons d'autant plus hédonistes que nous nous restreindrons sur le quotidien.
On m'expliquait, en faisant des études de philosophie, on m'expliquait sur Épicure que Épicure, finalement, c'était quelqu'un qui, un jour, avait un gros poisson sur son assiette et qu'il était ravi parce qu'il aime beaucoup le poisson, et à qui, le lendemain, on sert un radis et qui est ravi de la même façon.
Oui, c'est ça. C'est exactement cela, oui. C'est-à-dire, c'est une certaine capacité à éprouver du plaisir, quelles que soient les circonstances, y compris dans les situations de disette. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous devons effectivement apprendre à vivre frugalement.
Nous voyons que tu es parvenu au point ultime de l'existence humaine. Tu portes la marque de la 100e année ou plus. Allons, rappelle ton âge pour en faire le décompte. Compte en le soustrayant à ce temps tout ce qu'un créancier, tout ce qu'une maîtresse, tout ce qu'un roi, tout ce qu'un client t'a arraché, tout comme un différend conjugal, la punition des esclaves, les allées et venues par la ville pour remplir des obligations. Ajoute les maladies que nous fabriquons de nos propres mains. Ajoute aussi ce qui reste inutilisé. Tu verras que tu as moins d'années que tu n'en comptes. Tu comprendras que tu meurs prématurément. Carpe diem, hein, et ça n'est pas Épicure qui parle, ça n'est pas Lucrèce, là encore, c'est Sénèque et Jean-François Balaudet. Après les avoir tellement distingués, finalement, stoïcisme et épicurisme, il est quand même temps de travailler à leur réconciliation. Ici, il y a vraiment une idée du carpe diem, de la même façon que le maîtrise, hein, la bonne distance des épicuriens, le bon rapport au plaisir, qui est un rapport de dosage, d'équilibre, de précision, de finesse. Ce bon rapport au plaisir, il s'agit là également de ne rien céder à la vie, de ne rien... plus exactement, de ne pas verser dans ce qui est mortifère au sein de l'existence et de vivre pleinement. Et ça, c'est un conseil stoïcien.
La vie périt par le délai, dit Épicure, ne diffère pas de jouir. Alors, les stoïciens ne le diraient pas ainsi pour la dernière partie de la phrase, mais effectivement, ce qui est un point commun et qui donne toute leur intensité à ces deux éthiques, c'est la concentration sur l'instant présent. Alors, dans le cas des stoïciens, il y a la conviction intime que l'instant présent est le lieu de l'accomplissement parfait, instantané. Dans le cas des épicuriens, on est tout près de cette idée, avec peut-être cet élément supplémentaire que nous sommes appelés par anticipation à considérer ce qui adviendra si nous faisons tel ou tel choix, si nous refusons telle ou telle chose. C'est ce qu'ils appellent le calcul des plaisirs et des peines, qu'il est important d'effectuer pour parvenir à maintenir son existence dans un état de plaisir continu. Ce qui n'est pas une contrainte stoïcienne, puisque la vertu étant parfaite et achevée à tout instant, dès lors que nous sommes dans la vertu, nous sommes à tout instant dans le bonheur parfait, et donc à tout instant prêts à disparaître.
Est-ce qu'ils n'ont pas en commun quand même un ennemi, outre la transcendance, outre ce que vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas quand même un ennemi, alors là pour le coup pratiquement commun, qui serait la colère tout simplement. Est-ce que ce ne sont pas deux adversaires, stoïcisme et épicurisme, de la colère?
Oui, sans doute. En tant que passion pour les stoïciens, en tant qu'incapacité à se satisfaire pour les épicuriens, oui, certainement. Même si on peut imaginer des cas de saine colère, en vérité, oui. C'est dans les deux cas une forme de sérénité qui est recherchée, qui ne se dit pas de la même manière, qui ne se fonde pas théoriquement de la même façon, mais au total, c'est une attitude effectivement qui leur est commune. Oui, c'est vrai.
The world is a vampire.
Un peu de colère pour finir cette émission en votre compagnie, Jean-François Balaudet, c'est les Smashing Pumpkins qui nous accompagnent pour clore cette émission, donc à mi-chemin d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au stoïcisme. Un grand merci Jean-François Balaudet. Je rappelle que vous enseignez la philo à Paris 10, à Nanterre. C'est du rapport entre stoïciens et épicuriens que nous avons parlé, du rapport et des différences. Infini ou infime, c'est selon, entre stoïcisme et épicurisme, donc, que nous avons parlé aujourd'hui. Je signale alors deux choses peut-être. Un vocabulaire d'Épicure chez Ellipse, hein, excellent, très pratique, très utile. Et puis l'édition des lettres, maximes et sentences d'Épicure en classique de poche. Et votre dernier ouvrage, Épicure et épicurisme, paraîtra en août 2009. C'est un que sais-je. Alors j'ai commis l'erreur au début de cette émission de dire que cette émission avait lieu après l'émission avec Thomas Benatwil sur Épictète et Marc Aurèle. En réalité, cette émission sera diffusée demain. Elle a été enregistrée hier, d'où ma bévue. Rendez-vous demain donc, on parlera de l'empereur Marc Aurèle et de son maître, l'esclave Épictète. À la technique aujourd'hui, le stoïque Martin Delafosse. À la réalisation, Cédric Ossir, assistant et collaboration Geneviève Méric, Adèle Vanrette. Un grand merci à Jennifer Murzeau pour la préparation toute particulière de cette émission, à Florence Malfatto, nouvelle venue dans l'équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Et enfin, comme toujours, comme tous les jours de cette semaine, une pensée amicale pour Igor Kortolitsa qui nous a aidés, qui nous a été d'une aide précieuse et qui va bien nous manquer. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.